Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
Le devoir de mémoire, histoire d'une formule.
Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, dans la marche du siècle. Bien sûr, il y a la Yougoslavie et le cortège de souvenirs que ces drames rappellent. Bien sûr, il y a eu, il y a quelques semaines, l'assassinat de René Bousquet. Bien sûr, il y aura probablement le procès de Paul Touvier. Mais il y a aussi, d'une façon beaucoup plus simple et plus modeste, une question. Cette question, elle a été posée il y a 3 semaines, le 11 juin, aux élèves du baccalauréat de philosophie. La voici la question. Pourquoi y a-t-il un devoir de mémoire?
Motif récurrent de l'émission de Jean-Marie Cavada qu'on vient d'entendre, sujet au bac en 1993. La formule entre pour la première fois dans un texte législatif au même moment et depuis, elle est devenue un motif à ce point impératif dans le discours que nous en oublierions presque qu'elle est de confection récente. Pollinisation dans les années 1980, fécondation dans les années 1990, c'est dans les années 2000 que le mot connaît la dissémination. Il est appliqué au souvenir de la traite et de l'esclavage, à celui des combattants des guerres coloniales, quel que fût le parti qu'ils avaient pris, etc. Le devoir de mémoire galope si vite qu'il a même donné son nom à un cheval de course. Il galope vite, mais il est lourd à porter. Force aussi est de constater que la répétition de la formule ne produit pas d'effet magique, qu'on ne sache pas que l'antisémitisme et le racisme aient beaucoup reculé. En revanche, on peut observer combien l'évocation appuyée par chacun de sa douleur propre peut mener à la guerre de tous contre tous. Et le devoir de mémoire vaut qu'on se demande comment il a été inventé et pourquoi il faudrait peut-être le ménager.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Sébastien Ledoux, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions du CNRS, dans peu de jours, un livre dont on a repris le titre, Le devoir de mémoire, une formule et son histoire. On peut faire l'histoire des mots?
On peut faire l'histoire des mots. Lucien Febvre, déjà à l'époque, dans les années 1920-30, c'était l'école des annales, s'était lancé aussi dans ce travail historique qui est devenu une tradition. Et pour l'historien, c'est assez fondamental en considérant que le langage structure quand même beaucoup de choses dans nos représentations et nos actions.
On est persuadé que le mot devoir de mémoire existe depuis longtemps. Vous allez nous montrer qu'il est le produit d'un feuilletage contemporain. Mais nous sommes le 21 janvier, anniversaire.
Nous voici en cette date anniversaire d'un jour funeste de l'histoire de notre patrie.
Dans le Figaro, on lit l'Institut de la Maison de Bourbon vous invite à participer à la messe en mémoire de Louis XVI à la chapelle expiatoire à Paris ce 21 janvier. Le Mémorial de France à Saint-Denis vous invite à participer à la messe solennelle qui sera célébrée selon la tradition à la mémoire de Louis XVI, roi de France et de Navarre. Le jeudi 21 janvier, c'est en train de se finir, c'est à la basilique royale de Saint-Denis.
1792, moi, Louis XVIe du nom. Roi de France.
Je suis dans la basilique Saint-Denis, la basilique royale. Le prêtre relit le testament de Louis XVI. Dans ce testament de Louis XVI, on peut déceler le prodigieux humanisme d'un roi qui est tombé victime d'ennemis qu'il a particulièrement pardonné.
Je vous invite, Sébastien Ledoux, à faire un instant d'archéologie. Le mot, évidemment, devoir de mémoire n'existe pas, ne se profile pas encore. Le mot, c'est souvenir.
Le mot dominant, ah oui, à cette époque-là, enfin au début donc du XVIIIe siècle, par rapport à la Révolution, et par rapport à la Révolution française, c'est le mot souvenir qui va dominer largement le XIXe siècle et même une partie du XXe siècle, puisque pour la Grande Guerre, on parlera aussi de la Journée du Souvenir, par exemple.
Mais il s'agit aussi de réparer. Il y a le mot réparation, les crimes commis sur la guillotine ou bien la profanation des sépultures royales à Saint-Denis. Et la réparation, c'est une politique que la restauration, le pouvoir installé à partir de 1814-1815, veut promouvoir.
Oui, parce qu'il y a évidemment au fondement de tout ça une question de légitimité, une nouvelle légitimité politique après la période révolutionnaire et la période napoléonienne, et que donc on sait très bien que cette politique de réparation est aussi un moyen de d'asseoir à nouveau une légitimité du pouvoir royal.
Et ça ne marche pas bien, parce que si Louis XVIII en la matière est prudent, Charles X, son frère et successeur, est un peu exagéré. Il y a déjà la chapelle expiatoire du côté de la future gare Saint-Lazare, mais lui, il aurait voulu transformer la place de la Concorde en place expiatoire. Et il y a un rejet d'une grande partie de l'opinion. C'est une politique du passé avortée. Mais maintenant, j'aimerais, on va venir à l'époque contemporaine. Allez, on fait un grand saut. Année 1980. Il y a un climat sans doute favorable, un terreau. On est attentif aux mémoires populaires. La mère Denis, le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Elias. Et une politique du passé est élaborée fort discrètement dans un ministère menacé de disparition.
Oui, on est effectivement à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981 dans un désir de réenraciner le pays dans son histoire après les années Giscard qui finalement sont considérées comme des années d'oubli du passé. Giscard se tournant vers la modernité comme on le sait. Et donc vous avez une petite structure au sein du secrétaire d'État aux anciens combattants dirigée par le ministre des anciens combattants, c'est Jean Lorrain. Et donc il fait venir Serge Barcellini dans cette structure-là.
Barcellini, on le reçoit de temps en temps ici. Il est convaincant et malin.
Il est très habile. Il est très habile et surtout il sent un petit peu il sent beaucoup les choses. Il est très inspiré puisqu'il va, dans les années 1980, dans des gouvernements d'ailleurs de gauche comme de droite, il est permanent à sa place, il va imposer un terme, pas le terme de devoir de mémoire d'ailleurs, mais le terme de mémoire, mémoire de la France combattante, mémoire des anciens combattants, et parce qu'il sent tout à fait que ce terme-là de mémoire est en pleine vogue. Comme vous l'avez dit, dans les années 70 déjà, on l'utilise pour des mémoires émancipatrices, la mémoire bretonne, la mémoire corse, etc., etc. Donc il va récupérer ce vocabulaire de la mémoire, mais là, cette fois, pour imposer une sorte d'unité nationale.
Mais je ne veux pas être blessant. Si je dis qu'il est malin, c'est que la mémoire crée des emplois. Il y a des emplois mémoire pour les jeunes dans les associations ou les organisations d'anciens combattants. Et puis, ça permet de créer une délégation, voire une direction de la mémoire, une structure administrative qui maintient le ministère ou le secrétariat d'État.
Oui, parce qu'effectivement, les anciens combattants, même dans les années 80, vieillissent, prennent de l'âge. Donc la structure n'est pas forcément pérenne. Donc effectivement, ils se tournent. C'est une réorientation qui a lieu là dans les années 80. Et on vit encore aujourd'hui d'ailleurs dans cette réorientation-là, c'est-à-dire la prévention, faire de la prévention des crimes du XXe siècle. Alors qu'auparavant, on était à finalement se charger des anciens combattants, de leurs pensions, des structures de santé, etc., etc. Et là, on est dans cette idée de, tiens, on va créer un ministère de la mémoire pour faire de la prévention auprès des jeunes, ça c'est très très important, la transmission des conflits mondiaux auprès de la jeunesse pour les prévenir, et c'est là où on rencontre finalement cette idée un peu magique, ce que vous disiez tout à l'heure, un peu magique.
Ah, mais osez le mot, oui.
Voilà, donc on va effectivement souder la communauté nationale autour de ces conflits mondiaux.
Et ça va s'organiser, là encore c'est une grande idée pour Serge Barcellini, autour de lieux, et de lieux qui pourraient prévenir le fameux conflit franco-allemand qui doit maintenant, par une opération de transsubstantiation, devenir le nerf de l'Europe. Le lieu évidemment privilégié, c'est Verdun. On se souvient qu'en septembre 84, le président de la République d'alors et le chancelier Kohl s'y étaient retrouvés, comme en mai qui vient s'y retrouveront côte à côte ou la main dans la main François Hollande et Angela Merkel.
Le chef de l'État et le chancelier allemand sortent maintenant de cet ossuaire de Douaumont. Il ne faut pas oublier que cette cérémonie n'est pas consacrée aux morts de la guerre 14-18 uniquement, mais aux morts de toutes les guerres franco-allemandes et donc aussi aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est la première fois que l'hymne allemand est joué à Verdun. Le président Mitterrand et le chancelier Kohl qui se serrent la main pendant la Marseillaise.
Le commentaire est signé Patrick Lecoq. J'insiste sur la politique du passé, comme vous le faites dans votre livre sur l'histoire du devoir de mémoire, Sébastien Ledoux, mais il faudrait être beaucoup plus fin, introduire beaucoup de ressorts psychologiques. Il y a d'ailleurs des psychanalystes qui s'intéressent à la mémoire de la guerre de 14, comme à la mémoire de la judéité, parce que année 80, c'est l'arrimage de la judéité à la mémoire.
C'est-à-dire qu'effectivement, au sein de la communauté juive, à la fin des années 70 et au début du tout début de 1980, on a la redécouverte de la mémoire juive centrée, polarisée autour de la mémoire de la Shoah. Ce qu'on n'appelle pas encore la mémoire de la Shoah, d'ailleurs. Ça viendra à la fin des années 80 avec évidemment le film de Lanzmann qui est sort en 85. Mais là, on a la redécouverte d'une mémoire, et donc l'une des figures de cette redécouverte, c'est Alain Finkielkraut, hein, donc qui sort son livre en 1980 et donc qui est vraiment qui fait partie donc de cette seconde génération qui n'a pas connu hein, l'extermination, mais qui est dans cette redécouverte à la fois d'une judéité au travers du souvenir, donc de la mémoire du génocide des Juifs.
Ce livre, c'est le Juif imaginaire que vous citez longuement, où Finkielkraut dit « Je suis séparé des morts de la déportation par une distance infranchissable. L'impératif de mémoire naît avec la conscience douloureuse de cette séparation. »
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'on tourne autour de la notion de devoir de mémoire. Le terme n'est pas là dans l'écriture d'Alain Finkielkraut, mais on est directement dans ce qu'on va appeler quelques années plus tard dans le devoir de mémoire.
Vous insistez sur l'importance, la fécondation du mot, pollinisé par les intellectuels, des médias.
Les médias ont joué un rôle déterminant dans la fécondation du terme, dans la cristallisation, moi j'appelle ça la cristallisation du terme au début des années 1990, en lançant effectivement comme une sorte de plateforme ce terme qui devient formule donc en 92-93, donc autour de, on a entendu Jean-Marie Cavada tout à l'heure, hein, donc effectivement autour de figures comme Jean-Marie Cavada, et très vite en fait effectivement vous avez une attention des médias, des journalistes, de la presse, de la radio et de la télévision autour de ce terme-là, et dès 1994, les journalistes eux-mêmes ne citent plus forcément des gens qui l'utilisent, mais vont l'utiliser, vont se l'approprier.
Et il faut dire qu'il y a des dates qui permettent cette cristallisation par les médias. Les médias, ils aiment bien un agenda, vous savez, une actualité prévisible. Alors les anniversaires, les procès, dont on sait qu'ils vont être lancés à telle date, se terminer à telle date, alors à part propos d'anniversaire, l'anniversaire de la rafle du Veldiv. Une marche du siècle en juin 92, très importante, expliquez-vous. Et un mois après, le président de la République d'alors, c'est toujours François Mitterrand, se décide à aller à l'anniversaire de la rafle du Veldiv, mais il a toujours refusé de reconnaître la responsabilité de la France dans la rafle de juillet 42. Robert Badinter, qui est président du Conseil constitutionnel, décide de parler. Pendant le discours du secrétaire d'État aux anciens combattants, voilà que le président de la République arrive et il est hué.
Mais voilà, François Mitterrand est élevé par une minorité de l'assistance qui juge le geste insuffisant. Au sifflet des uns répond l'indignation des autres.
Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là. Vous m'avez fait honte. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent cela? Je ne demande rien, aucun applaudissement. Je ne demande que le silence que les morts appellent.
Robert Badinter, dont vous dites, Sébastien Ledoux, que s'il s'exprime avec cette colère sans retenue, c'est pas pour défendre François Mitterrand.
Pas du tout, oui. Donc c'est ce qu'on a souvent cru, mais Robert Badinter est bouleversé par très sincèrement en fait. Il n'y a pas de calcul politique là-dedans. Hein. On l'entend d'ailleurs. Il est quand même président du Conseil constitutionnel à ce moment-là. Déjà, il est extrêmement rare qu'un président du Conseil constitutionnel se joigne à une manifestation publique, à une commémoration publique. Là, il le fait. Et il laisse éclater sa colère. Pourquoi il est directement lui-même concerné finalement par cet hommage aux morts, puisque son père est mort en déportation, Simon Badinter, qu'il a failli même lui-même être raflé. Et donc vous avez à la fois pour lui une sorte de ce trouble là, c'est un scandale. Ça correspond à un scandale. Et c'est pas du tout effectivement pour couvrir Mitterrand, pour le protéger ou je ne sais quoi de tout ce qu'on a pu dire. Mais c'est lui-même directement. Il est lui-même touché dans sa sensibilité et dans sa mémoire justement.
Alors la date anniversaire du Veldiv à Saint-Vauzé, en 92, peu après, le mot va apparaître pour la première fois dans un texte législatif. Les déclarations de Jacques Chirac en 1995 au même endroit ne seront pas du tout de la même tonalité que les silences de François Mitterrand. C'est le temps de l'officialisation avec l'entrée dans le Larousse du mot. 2003, un peu plus tard.
Voilà, un peu plus tard. Mais je pense que ce qui est fondamental, et par rapport au son qu'on vient d'écouter, c'est de considérer que finalement, ce surgissement et cette imposition de devoir de mémoire, cette cristallisation, elle se fait dans le silence de la parole présidentielle. Je pense que vraiment, il y a une relation directe entre cette imposition-là de médias, mais aussi d'acteurs politiques. Hein, je cite Michel Noir, Jean Le Garec, des personnes comme ça, qui effectivement considère qu'il faut se souvenir et il faut reconnaître la faute finalement de Vichy. Et donc il faut se souvenir et reconnaître cette collaboration et qui a permis la persécution et l'extermination des Juifs. Et donc c'est vraiment dans ce silence de Mitterrand que va s'imposer le devoir de mémoire.
Le devoir de mémoire qui est à son zénith maintenant et qui s'applique surtout à ce qu'on appelle la Shoah. Il serait quand même temps, le 21 janvier, de rappeler un autre anniversaire. C'est l'anniversaire de la mort de Lénine en 1924.
De l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Où les chœurs de l'armée rouge étaient relayés par les interprètes français de la plage socialiste. Nous parlons de l'histoire parce qu'elle en a une, cette notion du devoir de mémoire. On pourrait imaginer que le devoir de mémoire s'applique aussi aux victimes du système soviétique. Aux millions de victimes du système soviétique. Vous rappelez, Sébastien Ledoux, qu'en 1980, un des premiers à avoir utilisé le mot, c'est un intellectuel de droite qui était alors en pleine ascension médiatique, laquelle a été fauchée par 1981.
Oui, Philippe Nemo fait paraître un article dans la revue Commentaire qui vient d'être fondée 2 ans auparavant par Raymond Aron. Et donc, il intitule cet article « Devoir de mémoire ». Il commence par statuer, on va dire, par établir la fin du marxisme. Et il s'en réjouit, évidemment. Il est de droite, il est libéral. Et donc là, on a quelque chose là pour le coup, puisqu'avec le devoir de mémoire en titre comme d'une revue qui est assez visible, hein, on a l'un des premiers éléments de cette histoire de devoir de mémoire, mais ça ne prend pas ça ne prend pas, c'est-à-dire que
les mauvais esprits se demanderont pourquoi ça ne peut pas prendre en France.
Personne ne va rebondir là-dessus. Personne ne reprend. Par contre, à la fin des années 90, quand le terme est vraiment installé, quand il est une formule, il est pour le coup repris en introduction du livre noir du communisme, hein, pour dénoncer les crimes du communisme.
Non, mais je faisais cette remarque à propos des victimes du communisme parce que la notion englobante de devoir de mémoire est susceptible de beaucoup de critiques et les historiens, très vite, dès les années 1990, ne vont pas manquer de sortir des flèches de leur carquois. Pierre Nora, celui qui avait initié la série de 7 volumes des lieux de mémoire, dit « Bon, on a droit à la mémoire, mais le plus important, et ça suppose de la distance plus que de l'émotion, c'est le devoir d'histoire ».
Alors effectivement, les historiens, donc Henri Rousseau, Pierre Nora, comme vous le dites, hein, dès l'imposition de la formule dans l'espace public, vont dénoncer cette injonction, considérant que on n'a pas suffisamment de recul avec cette obligation dite morale finalement. Hein, on n'a pas suffisamment de recul et d'intelligibilité, et donc ça court-circuite. Là, je reprends un terme de Ricoeur, ça court-circuite un petit peu le travail de l'historien qui doit effectivement faire un travail pour mettre à distance le passé et qu'avec, je reprends en gros hein, l'idée des critiques, hein, et qu'avec le devoir de mémoire, au contraire, on a une injonction pour se coller au passé et pour justement ne plus le voir, hein, pour qu'il finalement qu'il puisse, enfin que le passé finisse par s'obscurcir plutôt que de l'éclairer, ce que font les historiens, ce qu'ils essayent de faire.
Il finit par s'obscurcir de sa présence trop épaisse. Vous citez Paul Ricoeur, alors il a joué un rôle très important, structurant dans les débats autour de la critique du devoir de mémoire, publiant notamment un livre, La mémoire, l'histoire, l'oubli, noter l'importance de l'ordre. Il s'adressait ainsi à Laure Adler dans l'émission de télévision Le Cercle de Minuit.
Le devoir de mémoire, c'est le devoir de continuer à raconter. Donc, préserver les traces et continuer le récit et enseigner l'autre génération. Ça, c'est Deutéronome. Tu diras à tes fils. Tu diras à tes fils. D'accord, souviens-toi. Mais les sociétés humaines ne peuvent continuer leur action qu'à condition de savoir prescrire. Ça veut dire, non pas du tout arrêter la mémoire, mais arrêter la colère. Tu ne poursuivras pas le criminel au-delà d'un temps de la colère. Il y a un temps pour la colère et il faut savoir arrêter la colère. Alors vous voyez, continuer la mémoire, arrêter la colère, c'est là le problème de fond.
Alors c'est parfaitement clair pour ceux qui souhaiteraient des explications supplémentaires. Il y a un exégète de Ricoeur qui l'a aidé à préparer ce livre. Mais oser son nom, parce qu'on le connaît pour des déclarations à l'emporte-pièce aujourd'hui, mais à l'époque...
Mais c'était la première période d'Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.
Voilà, donc c'était effectivement lui qui a introduit Ricoeur dans la revue Esprit et qui a préparé avec lui cet ouvrage somme, hein, en plus. Hein, la mémoire, l'histoire, l'oubli, c'est vraiment un ouvrage somme.
Et l'oubli, c'est important.
L'oubli, c'est fondamental dans les sociétés. C'est effectivement à cette époque-là qu'on critique le devoir de mémoire sous le terme d'abus de mémoire. On va associer le devoir de mémoire à abus de mémoire, en considérant que se rappeler sans cesse, surtout se rappeler des malheurs et des souffrances, n'amène nulle part et certainement pas à une vie heureuse, à la bonne vie, comme dirait Ricoeur. Hein. Ricoeur parlait de bonne vie, il faut savoir mener une bonne vie. Et donc, cette bonne vie passe par l'oubli.
On parle ici de la réflexion à la hauteur des intellectuels, à la hauteur des enfants ou des scolaires maintenant. Application du devoir de mémoire, systématique, impérative. Visite dans les camps jusqu'à Auschwitz, c'est devenu une pratique scolaire. On va attendre des lycéens qui accompagnaient en 1996 le président Chirac à Auschwitz. Et on va aussi entendre de suite après une lecture critique de cette pratique qui est faite par une professeure du secondaire très concernée, Sophie Ernst.
Nous sommes venus pour perpétuer la mémoire et lutter contre tous ceux qui voudraient qu'on oublie ce lieu.
En franchissant le portail d'Auschwitz, ces élèves en classe de première viennent de 5 lycées parisiens et de Drancy. Drancy, le lieu du départ vers les chambres à gaz. Jacques Chirac a souhaité leur présence pour exprimer son espoir qu'Auschwitz ne se reproduise plus jamais. Cet après-midi, ces jeunes semblaient chaos par l'horreur absolue qu'ils avaient entreaperçue ici.
C'est abominable. Il faut le voir pour y croire C'est plus que de la perversité, c'est innommable.
On emploie des mots sans trop faire attention et du coup je crois que c'est une autre manière de ne rien vouloir savoir. Il y a devoir, c'est pas de la mémoire c'est ce dont on se souvient, là on se souvient pas du tout. Il y a à reconstruire, il y a à partir à la recherche, je savais à quel point pour moi c'était difficile et puis je trouve que ça vous rend bizarre. Enfin, quand les gens sont là à matraquer, je dis mais est-ce qu'ils veulent vraiment que tout le monde et les mômes soient fous comme moi? Parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui se regarde pas facilement en face. J'aime pas les donneurs de leçons en général, les gens qui sortent des il faut.
Sophie Ernst, France Culture, on reviendra sur ces propos. Votre livre m'a reçu le prix de l'INATEC, il est sans cesse nourri par vos recherches. Alina, vous avez même reconnu le journaliste qui parle à la télévision avant Sophie Ernst.
Oui, tout à fait, c'était Mémona Interman.
Ouais. Alors Sophie Ernst, ce qu'elle dit, qu'il ne faut pas transformer les enfants en témoins des témoins.
Oui, c'était une réflexion effectivement très utile à cette époque-là et encore toujours d'ailleurs l'actualité. Il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire que l'élève reste un élève. Il ne faut pas lui confier la mémoire, pour reprendre une proposition de Nicolas Sarkozy en 2008. Il ne faut certainement pas lui confier la mémoire. Il faut lui transmettre
confier la mémoire d'un autre enfant,
d'un autre enfant mort. Il faut lui transmettre un savoir. Et donc effectivement il y a eu toute une sorte de mécanique là-dedans, hein, et donc c'est là où on peut comprendre les critiques autour du devoir de mémoire. Il y a une sorte d'obligation, de mécanisation autour de ces voyages scolaires, finalement liés à des bonnes raisons, a priori des bonnes raisons, hein, une sorte de conscience morale, une sorte de culpabilité collective aussi, il faut le noter, et qui n'amenait rien d'un savoir. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sont retrouvés, vous savez, Auschwitz, comment ça se passe concrètement, on y va le matin très tôt, on revient le soir, qu'est-ce qu'on y a vu, et c'est pas parce qu'on a été à Auschwitz qu'on a compris quelque chose. Donc il y a tout un travail à faire. Bon, je pense que là, la critique était à la fin des années 90 et on en est revenu. Je pense que les enseignants préparent à chaque fois ce genre de séjour, de voyage avec les élèves, et ont compris effectivement tout l'intérêt du travail historique, et que là aussi, la magie n'opère pas forcément.
Ah non, pas nécessairement.
Non.
Vous étudiez, pour finir, ça serait l'objet d'une autre émission, la dissémination de la notion de devoir de mémoire, l'esclavage, les guerres coloniales. Ces mémoires collectives qui se constituent autour de la douleur ne sont pas faciles à harmoniser dans un même orchestre qui n'attend pas du tout une baguette qui serait l'avenir.
Bon, c'est là, effectivement la question qui est posée à partir des milieux des années 2000, hein, sur le débat sur les lois, autour des lois mémorielles, ensuite la commission Accoyer en 2008, c'est de savoir ce qu'on veut faire finalement de la mémoire collective. Et là, on est beaucoup plus loin que les années 80 avec Barcellini, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. C'est la reconnaissance des mémoires dites victimaires, hein, liées aux victimes.
Et la conversation publique qui se termine en querelle de pleureuses.
Écoutez, on peut le voir comme ça. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça amène à des impasses. Ça, c'est effectivement, cette transmission de mémoire victimaire amène certainement à des impasses et qu'il faut repenser au jour d'aujourd'hui, une transmission de mémoire, parce qu'on sait très bien que c'est la concurrence à la clé, et que finalement, ce que j'indique moi dans mon livre, c'est qu'on a tendance en plus à dépolitiser des vraies questions politiques, en se donnant bonne conscience, en faisant de la mémoire à peu de frais finalement.
Merci à vous Sébastien Ledoux, votre livre qui est en librairie dans peu de jours, qui a déjà reçu le prix de l'INATEC. Félicitations aux éditions du CNRS. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco, Serge Guy à la technique, Jacques Sigal à la réalisation, et chez vous Mathieu?
Bien, Charles Darwin, Jean-Charles Darwin, qui fait l'objet d'une exposition en ce moment à la Cité des Sciences à Paris.